Bonsoir, effectivement, ceux qui me connaissent savent que c'est un peu bizarre de trouver mon écriture dans une publication comme Ciné Hebdo et avant Charlie Hebdo. C'est pas ma tasse de thé. L'humour gaulois que je trouve vulgaire de ces publications et de Ciné, de mon avis Ciné, ne me dit rien de bien. Je n'aime ni les dessins, ni les blagues. J'ai mes limites, certes, et j'aurais jamais pensé à écrire, ni à lire d'ailleurs, Charlie Hebdo, et plus tard, Ciné Hebdo, si ce n'est, alors d'abord, un incident familial. Mon fils Dror et Ciné ont un point commun, ils sont des fanatiques de jazz. Et chez Ciné, et dans une moindre mesure chez mon fils, il y a la discothèque de jazz, une des meilleures du monde, je crois. Et ils se sont retrouvés un jour à New York, dans un magasin spécialisé, à chercher tous les deux le même disque rarissime, apparemment, dont ils avaient entendu qu'il se trouvait là-bas. Et ils ont fait connaissance, et ils sont devenus amis. Moi, je n'étais pas du tout dans le coup. Mais puis j'ai eu la chance, un jour, Ciné, qui derrière son aspect extérieur brut, grognon, est un homme d'une immense sensibilité. J'ai découvert qu'il avait une fille adoptive, une palestinienne, une très jeune palestinienne, qu'il avait adoptée en Palestine, dans la région des Bethléem. Il y a un système de parrainage qu'organisait à l'époque l'association médicale trans-palestine, et les familles françaises adoptées, c'est-à-dire en fait envoyées un peu d'argent et des cadeaux pour Noël ou pour les fêtes, et quand ils en avaient les moyens, venaient visiter la famille et leur filleule ou leur... Dans les villes et les villages de Palestine, donc Ciné, un jour, revient en Palestine pour voir sa filleule, et c'est à ce moment-là que mon fils Dror me dit, écoute, j'ai un pote à moi qui s'appelle Ciné, peut-être entendu parler de lui, qui vient en Palestine, et il voudrait bien le connaître, et ce serait bien que tu le connaisses. Et on a donc fait connaissance. J'ai découvert un homme très différent de l'image que j'en avais, à travers la vulgarité de ses dessins et de ses propos, un homme d'une immense sensibilité, d'une grande intelligence, qui aime en plus bien manger, et surtout beaucoup boire. Sans être dans les excès de Ciné, c'est un point commun, j'aime manger et boire avec modération, mais quand même c'est une bonne chose. Et voilà, on s'est connus pour quelques jours, et il y a eu l'affaire Ciné. Et Ciné, tout d'un coup, est accusé par d'être antisémite et mis à la porte, comme un mal appris, de Charlie Hebdo. Et c'est là que Dror, mon fils, m'écrit, on accuse Ciné d'antisémitisme, tu peux penser Ciné ce que tu veux, mais je ne crois pas que tu le considères comme un antisémite. Et c'est vrai, je l'ai écrit dans la dernière chronique, calomnier quelqu'un d'antisémite est à mes yeux une des pires calomnies du tournant de la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle. On sait de quoi l'antisémitisme est capable. Certains d'entre vous l'ont peut-être encore vécu ici. D'autres, leurs parents, leurs grands-parents, mes parents, mes grands-parents. Il est capable du pire. L'antisémitisme peut dégénérer dans le génocide. Et il a provoqué, au niveau du génocide des Juifs d'Europe, 6 millions de morts, sans parler des autres. Dire de quelqu'un qu'il est antisémite, c'est dire qu'il est prêt à tout, qu'il est capable de tout, qu'il n'a de respect pour rien, certainement pas pour l'être humain en tant qu'être humain. Et donc je suis monté au créneau, et j'ai écrit un texte, parmi d'autres ont écrit, je n'étais pas le seul, mais j'étais aussi, peut-être j'étais certainement le seul Israélien, et un des rares Juifs qui ont écrit en tant que Juif, pour défendre Siné en disant d'ailleurs, comme c'est écrit ici, j'aime pas Siné, j'aime pas ce qu'il écrit, j'aime pas comme il écrit, j'aime pas son humour, mais Siné n'est pas antisémite.
D'ailleurs, l'accusation d'antisémitisme était fondée sur très très peu de choses, un tout petit fragment d'une de ses chroniques dans laquelle il parlait de Jean Sarkozy et il reprenait mot pour mot une expression d'un directeur de la LICRA, n'est-ce pas, président de la LICRA, Patrick, je ne sais plus comment, je n'ai pas mes notes ici, mais en tout cas, Siné ne manifestait aucun antisémitisme. J'ai lu et relu maintes fois le passage en question pour pouvoir prendre position à l'époque sur cette accusation terrible d'antisémitisme, et vraiment, il n'y avait pas de quoi.
Il y a deux jours, si vous lisez le journal local, vous avez vu dans le premier cahier un article intéressant d'une agence de presse concernant, on peut dire la dernière, enfin depuis il y en a peut-être eu d'autres, en tout cas la dernière démolition de maison, et pas n'importe quelle maison, à Jérusalem-Est, puisqu'il s'agit de l'hôtel Shepherd. Alors je pense que Michel le connaît sûrement mieux que moi, c'est un hôtel connu, c'est un hôtel, on peut dire même, qui a participé à l'histoire de la Palestine et d'Israël, et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la judaïsation de Jérusalem-Est, qui normalement, vous le savez, devrait être la capitale de la Palestine, s'il y avait une Palestine à côté de l'État d'Israël, et une Palestine viable, parce que, vous le savez aussi sans doute, il y a actuellement Gaza, qui est totalement isolé, le blocus continue, on en parlera, j'espère, il y a la Cisjordanie, c'est ce que les Israéliens appellent la Judée et la Samarie, et il y a donc ces territoires, et même le long du Jourdain, par exemple, c'est Israël qui est maître, et on se demande d'ailleurs sur quoi règne Mahmoud Abbas, qui, je le rappelle en passant, parce que c'est dans le livre, et peu de gens le savent, n'est plus légalement président de la Palestine, puisque son mandat s'est terminé justement il y a 2 ans également, au moment même où il était à Strasbourg et où notre sénateur maire Roland Ruiz l'a reçu avec les honneurs.
Oui, alors, tu mentionnes Jean-Claude, l'hôtel Shepherd. Il y a 25 ans, en 1986, je suis allé visiter l'hôtel Shepherd qui était fermé en mauvais état et occupé par une patrouille de la police des frontières israéliennes avec son propriétaire. Son propriétaire n'était pas n'importe qui, l'hôtel Shepherd appartient à la famille Husseini, qui est une des grandes familles de Jérusalem, et dont le patriarche, le chef, était à cette époque-là, Faisal Husseini, qui m'a fait longtemps l'honneur, jusqu'à maintenant, l'honneur de son amitié. Et j'ai passé avec Faisal Husseini devant l'hôtel Shepherd. On a pu rentrer, c'était pas montré comme c'est aujourd'hui, et la patrouille se trouvait sur le toit, et il me dit, c'est mon rêve, c'était en 1986. Mon rêve, lorsque je pourrais récupérer cet hôtel, c'est d'en faire le centre du dialogue israélo-palestinien. Et il m'a développé toute une série d'idées avec un centre de recherche, avec une salle de conférence, avec une salle pour les activités culturelles, en disant, tu vois, c'est un très beau bâtiment, grand bâtiment, ancien, qui était en mauvais état, mais dont on pouvait faire une perle architecturale à Jérusalem. Et il a dit, pour moi, c'est pas à moi qu'il est, il appartient à Jérusalem, et Jérusalem, c'est une vieille phrase de Faisal Husseini, c'est notre ville, il disait, et le nôtre est indéfini. Nous, ça veut dire juif, nous, ça veut dire arabe, nous, ça veut dire palestinien, ça veut dire israélien, ça veut dire chrétien, ça veut dire européen. Jérusalem, nous, ça appartient, nous, l'humanité. Un programme très courageux pour un palestinien, pour qui Jérusalem est d'abord la capitale de son pays. Jérusalem est la capitale de son peuple. Eh bien, Faisal Husseini parlait toujours de Jérusalem comme notre Jérusalem et rêvait de l'Orient Shepard comme une espèce de palais des nations et centre culturel international dans la Chine.
Oui. Puisqu'on a démarré sur l'antisémitisme mal légué, je connais, votre ami Ziné, Michel Barsavski, je voudrais dire que, à mon sens, on est tout le temps sur le fil du rasoir quand on est militant comme Michel Barsavski et comme toi, Jean-Claude Méliès. En effet, l'antisionisme, l'antisémitisme, la judéophobie, comme son pendant symétrique, l'islamophobie, sont des notions que l'on peut revendiquer, affirmer, accuser l'autre, etc. Et donc, on est tout le temps, vraiment, je reprends cette expression de fil du rasoir, parce que c'est extrêmement facile de basculer, par exemple, de l'antisionisme et d'une prise de position politique vis-à-vis de la politique de l'État d'Israël, dans de l'antisémitisme, qui à ce moment-là viserait une religion, ou qui tomberait dans la judéophobie, c'est-à-dire qui viserait les humains juifs, qu'ils soient croyants ou incroyants.
Hein. Oui, je voudrais réagir un peu là-dessus. Je pense que la parole orale ou écrite, pour qu'elle soit objet d'un échange, moyen d'un échange, demande toujours un maximum de clarté sur les mots qu'on utilise. Si on n'est pas clair sur les mots qu'on utilise, on ne peut pas dialoguer. Lorsque je dis une voiture, je pense à quelque chose qui peut avancer, qui a quatre roues en général, dans lesquelles des gens peuvent s'asseoir. Si d'autres croient que c'est une fleur dans les champs, on n'aura pas de dialogue. On aura même de grands problèmes de communication. Il en est même dans l'utilisation du mot sioniste et antisioniste. L'antisémitisme est un racisme. L'antisémitisme est une idéologie, une pratique, parfois une pratique semblante, qui, dans la famille, dans cette grande famille que sont les idéologies et les mouvements racistes, identifie un autre et l'exclut alors de la citoyenneté, voire de l'humanité. Mais c'est un concept qui appartient à la grande famille des concepts du racisme, comme l'islamophobie, comme le racisme antinègre. Ce sont différentes formes, le racisme anti-gitan, il y a un racisme anti-juif qu'on appelle judéophobie, antisémitisme, selon les endroits, selon les époques. Le sionisme, ce n'est pas un groupe d'humains. Le sionisme est une idéologie, est un courant politique, un courant de pensée politique, un courant d'action politique, et ce sont donc des catégories qui ne se rencontrent pas. Être antisioniste signifie remettre en question les présupposés, les pratiques d'un courant politique, ou je dirais deux courants, de courants pluriels politiques, parce qu'il y a eu et il y a des sensibilités sionistes extrêmement différentes les unes des autres, avec des implications différentes. Y a-t-il un dénominateur commun? C'est un grand débat en Israël. Est-ce qu'on peut quand même retrouver un dénominateur par rapport au commun, par rapport à quel tous ceux qui se revendiquent du sionisme pourraient s'identifier? Le politologue israélien Shlomo Avinari, ancien directeur général au ministère des Affaires étrangères, a écrit des livres, d'abord des articles, j'étais son assistant à l'époque, des articles, puis après des livres, pour essayer de trouver un dénominateur commun. Qu'est-ce que le sionisme, qu'il soit de gauche, de droite, religieux, laïque, extrémiste, modéré, mais de trouver le cœur que tous ceux qui se revendiquent de ce mouvement et de cette idéologie partagent. Je pense qu'il n'a pas réussi à trouver. Il n'a pas réussi à prouver, à l'époque en tous les cas où je travaillais avec lui. Créer une identité entre anti-sionistes, c'est-à-dire s'opposer à une pensée politique, à un mouvement politique, et antisémitisme, c'est-à-dire un racisme contre une communauté, la communauté juive en l'occurrence, c'est une trahison intellectuelle. C'est-à-dire c'est que beaucoup d'antisionistes soient des antisémites, peut-être. Que beaucoup d'antisémites soient antisionistes, peut-être. En fait, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas plus anti... Non, il n'y a pas plus... Si, malheureusement, il y a même plus. Le Pen et son mouvement est un mouvement raciste, anti-juif, même s'il le cache parfois, profondément pro-israélien et sioniste, et se dit comme sioniste. La grande majorité, avant le génocide des juifs d'Europe, la grande majorité, l'immense majorité des juifs du monde, et surtout des juifs d'Europe, étaient anti-sionistes. Soit pour des raisons religieuses, les communautés, dans leur immense majorité, les communautés juives d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, étaient idéologiquement anti-sionistes. Vous voyez le sionisme comme un blasphème, comme une aberration du point de vue de la religion juive. Et les juifs prolétaires, les juifs du mouvement ouvrier, les juifs organisés dans le mouvement communiste, dans le mouvement socialiste, et en particulier dans le Bund, qui était un mouvement qui s'est défini dès le départ comme un mouvement farouchement, je dirais, anti-sioniste. Donc, que ce soit le mouvement ouvrier juif, que ce soit les communautés religieuses juives, c'est-à-dire 90% des juifs d'Europe, en tout cas d'Europe centrale et d'Europe orientale, étaient ouvertement, clairement anti-sionistes. Donc, c'est quoi? C'est tous des juifs antisémites. Pour eux, c'était au contraire l'opposition juive. En tant qu'ouvrier juif, comme mouvement ouvrier juif, le Bund disait, on ne peut soutenir ce mouvement. En tant que juif pratiquant, Agudat Israël et d'autres mouvements religieux disaient, on ne peut en aucun cas, en tant que juif, soutenir ce mouvement qui est considéré comme un ennemi et comme un danger pour le peuple juif.
Oui, merci. Et d'ailleurs, on peut expliquer pourquoi des juifs religieux, et il y en a aujourd'hui encore, ici et dans le monde entier, on a fait venir ici à Strasbourg M. Rapkin, qui a écrit des livres là-dessus, il vient du Canada, et il va peut-être refaire une tournée au printemps, on espère l'avoir ici à nouveau à Strasbourg. Il est antisioniste pour des motifs religieux. Pour le dire très brièvement, c'est lié à la question du messianisme juif, c'est-à-dire le fait que si le Messie était venu, pour dire ça rapidement, ça se saurait. Il n'y aurait plus de guerre, il y aurait la justice partout, il y aurait la paix, etc. On aurait fait des socles de charrue avec les armes, une vieille phrase. Voilà. Bon, tout le monde voit que le Messie, bon, pour certains, les chrétiens, il est déjà venu. Enfin, pour nous autres, juifs, même athées, ce qui est mon cas, non, le Messie n'est pas venu. La révolution mondiale n'est pas venue, pour le dire autrement. Alors, je voudrais dire que pour le CRIF, c'est vraiment un problème. Le Conseil représentatif, dit représentatif des institutions juives de France, on est antisémite, et c'est des accusations qui me sont portées à moi-même, ici à Strasbourg, quand j'interviens à la communauté juive, dont, je le précise, je suis membre. Je suis membre de la communauté juive de Strasbourg, et quand j'y vais, je suis reçu, je ne sais pas comment il faut dire, dans les musiques, voilà, oui, par les agents de sécurité, je suis suivi à la trace, comme si j'avais une ceinture explosive, n'est-ce pas? Et tout récemment, pour le dire rapidement, une toute petite anecdote, je vais au club 3e âge, bon, j'ai pas l'âge des dames qui fréquentent ce club, qui ont 80, 90, 95 ans, mais enfin, j'y vais parce que les conférences sont extrêmement intéressantes. Et la semaine dernière, il y avait M. André Fischer, qui est un ancien cadre infirmier de l'EPSAN, c'est-à-dire ancien Stefan Feld à Brumath. Il a fait un exposé remarquable sur l'origine, que j'ignorais d'ailleurs, de cette institution qui remonte au 12e siècle. Hein, c'est... bon... monastères, chrétiens, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, ensuite les aliénés, et voilà. Eh bien, lorsque j'ai voulu, alors après la conférence, on prend le café, n'est-ce pas, et il y a des petits gâteaux. Lorsque j'ai voulu aller pour parler encore après avec ce monsieur, une dame du comité est venue me dire, ah, le comité a décidé que vous n'avez pas le droit de vous asseoir à la table. Et voilà. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mais oui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté juive de Strasbourg, dont, je le répète, je suis membre, je cotise, je suis adhérent de cette communauté. Eh bien, moi, je refuse cela. Et je pense que les juifs, ils tournent vraiment dans un mauvais sens. Alors, je termine. Nous avons, je voudrais parler de l'actualité là-bas, la plus récente. À Safed, vous avez lu dans la presse qu'il y a d'abord un rabbin, Safed, qui a, en somme, interdit aux juifs de cette ville, une ville où il y a pas mal de palestiniens arabes, d'arabes palestiniens, de louer, et en s'appuyant sur la Torah, de louer des appartements en s'appuyant sur la Torah. Et ils sont devenus en une semaine, je crois, 50, et en 2-3 semaines, ils sont devenus 300. Alors que penser, je te pose la question Michel, qu'est-ce qu'on peut penser de 300 rabbins, n'est-ce pas, qui dans Israël disent, autrefois on disait interdit de louer aux juifs, ou ces métiers sont interdits aux juifs. Et j'en sais quelque chose dans ma propre famille. Et bien maintenant, en Israël, des rabbins disent « ne louez pas aux Arabes ».
Ça veut dire deux choses, à mon avis, les deux qui me plaignent énormément. La première, c'est la montée exponentielle du racisme en Israël au cours des 5 dernières années.